en ce moment, les historiens, les anthropologues redécouvrent un peu le thème des religiosités partagées entre chrétiens, musulmans, mais aussi entre diverses confessions chrétiennes et diverses appartenances musulmanes dans l'histoire et notamment à l'époque ottomane. Il y a énormément de lieux qui étaient des lieux de pèlerinage communs. Quand on regarde les rituels, il y a beaucoup de points de ressemblance dans les rituels. Et il y a une spécificité confessionnelle ou religieuse qui n'est pas toujours évidente. Donc il y a des pratiques qui sont des pratiques de l'ordre du social, de l'ordre des rites agraires, etc., qui étaient vraiment communs aux chrétiens et aux musulmans. Un bon exemple, c'est les moulèdes, les fêtes des saints en Égypte, qui se sont développées d'abord du côté musulman, puis du côté copte à la fin du Moyen-Âge, et qui ont été, jusque dans la première partie du XXe siècle, des grands rendez-vous festifs, où il y avait des célébrations liturgiques, mais où il y avait aussi des rituels beaucoup plus populaires, peut-on dire. Donc c'est là qu'on se faisait tatouer, c'est là qu'on passait beaucoup de temps à manger ensemble. Il y avait même des pratiques parfois inconvenantes, des danses, des choses comme ça. Donc il y avait quelque chose qui suivait le rythme des saisons. Ce rythme des saisons était lié au calendrier liturgique. On retrouvait ça chez les chrétiens, chez les musulmans. Il y avait une communauté de perception des lieux, la colline, le tombeau, la source, etc., qui attirait des religiosités partagées. Quand on regarde de près, ce n'est pas si simple. Il y a aussi compétition, émulation, différenciation sur ces lieux. Mais quand même, ça existait et c'était très vivant. Il y avait aussi des choses en dehors des pèlerinages, les amulettes qu'on porte, les rituels contre la maladie, contre le mauvais œil, etc. Et depuis l'arrivée des missionnaires occidentaux et depuis la formation du clergé oriental à Rome, donc depuis le XVIIe siècle, il y a du côté chrétien des phénomènes qu'on a connus aussi en Europe. Donc une normalisation de la religion qui passe par la chasse aux superstitions, la séparation claire entre profane et sacré, le sacré étant de plus en plus le monopole du clergé, dont le pouvoir se renforce avec une normalisation des règles à travers, par exemple, la discipline des sacrements, dont les rituels deviennent beaucoup plus fermes, beaucoup plus stricts, etc. Et puis, l'instruction des fidèles. Pour être sauvé, il faut être instruit. Et donc, l'instruction, c'est une forme de normalisation. On enseigne les mêmes catéchismes. Donc il y a toute une série de phénomènes comme ça, de mise par écrit, de transmission d'une culture écrite, de contrôle de cette culture par le clergé, qui aboutit à mieux séparer le profane du sacré et donc à séparer aussi cet espace commun de religiosité que chrétiens et musulmans partageaient. Si on y ajoute l'exode rural, donc on n'est plus sur le même territoire, on ne perçoit plus les saisons de la même façon, on ne partage plus le risque de l'inondation ou de l'attaque de sauterelles entre chrétiens et musulmans, on a là un certain nombre d'éléments qu'on peut qualifier d'anthropologiques qui expliquent un éloignement de plus en plus grand des chrétiens et des musulmans. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tout ce travail d'homogénéisation, d'instruction des fidèles, de normalisation de la religion, c'est aussi enclenché du côté musulman. En particulier, c'est tout à fait le travail des frères musulmans, qui sont pour un islam extrêmement stéréotypé, combattant la superstition et essayant de surveiller absolument tous les rituels et toutes les pratiques et les faire rentrer dans un moule unique et homogène.
Est-ce que ce processus d'affirmation et d'approfondissement de son identité, est-ce que c'est un processus conscient ou inconscient ?
Les chrétiens, les musulmans, il y avait une discrimination, il y avait des hiérarchies. Ce n'était pas qu'une hiérarchie entre chrétiens, musulmans et juifs. Il y avait d'autres formes de discrimination et d'autres hiérarchies dans la société ottomane, par exemple. Donc dans cet ordre hiérarchisé, où les chrétiens étaient dans une situation d'infériorité par rapport aux musulmans, ils participaient quand même à la cité. Par exemple, il y a un rituel dans l'islam qui s'appelle istisqa, qui est un rituel pour demander la pluie quand il fait sec. Et on a des témoignages de processions autour des remparts d'une ville où la procession est ouverte par les oulamas portant le Coran, suivie par les différents clergés en costume liturgique portant l'évangile et cierges allumés et chantant chacun dans sa langue liturgique. Et la procession se termine par les rabbins juifs portant la Torah. Donc il fallait les prières de tout le monde pour faire tomber la pluie. pas les prières des musulmans ou les prières des chrétiens, c'était la ville entière et les chrétiens et les juifs appartenaient à cette cité. Ça renvoie aussi à une certaine conception de l'islam, parce que l'islam considère qu'en fait c'est une religion englobante et que d'une certaine façon les chrétiens et les juifs sont des musulmans inaccomplis mais sont des musulmans. Et donc toutes ces catégories sont un peu remises en cause du côté chrétien par ce qu'on appelle la confessionnalisation. Il y a eu donc une conscience chrétienne de plus en plus forte qui les a séparés des musulmans, mais il y a eu avant tout aussi une conscience catholique contre la conscience orthodoxe. Tout ça, ça s'est passé beaucoup au XIXe siècle, ça s'est passé en même temps que l'idée de nation est née et l'appartenance confessionnelle et la conscience confessionnelle a joué un rôle très important dans la formation des nations au XIXe siècle. Et donc on est maintenant dans des situations où il n'y a plus cet espace public, où il y a de moins en moins cet espace public. Et d'une certaine façon, il faudrait recréer un espace public, un endroit où chrétiens et musulmans pourraient se sentir appartenir à la même cité et contribuer au bien de la cité ensemble.
Est-ce que justement le printemps à Rome ne pourrait pas être l'occasion de recréer cet espace public qui permettrait aux chrétiens et aux musulmans de se retrouver autour de cette même idée de cité ?
Moi, c'est le pari que j'ai envie de faire et je ne suis pas le seul. Les observateurs de ces sociétés-là pensent tous que ça peut être une opportunité et on sait qu'une des origines des révolutions arabes, c'est qu'il y a une demande de citoyenneté, une demande de démocratie locale, une demande de prise en charge des problèmes locaux par la population, chose encouragée depuis de longues années par les ONG et par les programmes internationaux aussi et que les régimes autoritaires avaient du mal à gérer. Donc là, il y a tout un terrain favorable à une évolution de ce type-là. Mais un des problèmes que je vois, c'est que très souvent, du côté chrétien, notamment du côté des hiérarchies chrétiennes, on n'a pas du tout conscience de ça. On est en fait dans une mentalité de minoritaire. On croit qu'on a besoin d'un grand protecteur, genre Moubarak ou Assad, et on ne s'imagine pas recréer de l'espace public, recréer de la citoyenneté, recréer du débat avec les musulmans qui vivent sur le même territoire à partir de la base et à partir donc d'un principe d'un espace public partagé et d'une cité partagée.